Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes chez Radio Galère, 88.4 à la friche de la Belle de Mai, avec toujours le très fidèle et très compétent Sidi à la technique. Bonjour Sidi. Et donc je suis Philippe Audou, donc je m'exprime là parce que je fais partie de Palestine 13, une des associations historiques qui est reliée à l'association France-Palestine Solidarité et qui depuis des décennies fait le maximum pour soutenir la cause palestinienne. Et donc cette association Palestine 13 publie chaque vendredi une lettre, un mail donc, qui répertirait un certain nombre d'événements locaux ou d'événements internationaux et des informations qui, elles, au moins sont de sources sûres, hein, puisqu'elles proviennent de gens qui sont sur le terrain, de gens qui sont peut-être à distance mais spécialistes. On va en écouter une tout à l'heure, Marie, qui a créé un magnifique podcast qui s'appelle Yalla, je t'emmène. Et donc l'Assemblée Générale de Palestine 13 va avoir lieu ce jeudi 27 février à 18h à la Maison des Associations sur la Canebière. Donc, bien sûr, celles et ceux qui sont adhérentes, il y en a beaucoup, bienvenue. Et puis celles et ceux qui veulent voir un petit peu comment fonctionne cette association, bienvenue aussi, donc ce jeudi 27 à l'Assemblée Générale de Palestine 13. Et on a besoin de monde parce que le monde a besoin de justice et de paix. Et la justice et la paix ont besoin de monde, et en particulier, bien sûr, par rapport à la Palestine. Voilà, alors j'ai quelques autres dates très importantes à annoncer. Donc après le jeudi 27 mars, dans l'ordre chronologique, il va y avoir samedi 1er mars, à la Cité de la Musique à Marseille, un magnifique quintet qui s'appelle Atmaten, qui a été constitué par Amin Soufari, qui est un musicien extraordinaire. Il joue du piano, il joue du oud, il compose des musiques, il dirige des orchestres. Et ça va être un hommage à la si grande chanteuse libanaise Fayrouz. Donc c'est samedi 1 mars à la Cité de la Musique à 20h30. Il y a encore des places, on y sera. Et puis ben, ce dimanche, c'est le 2 mars, donc c'est le premier dimanche de chaque mois. Et comme le premier dimanche de chaque mois, à la magnifique Cité des Arts de la Rue, là, aux Égalades, se produit ben, un dimanche aux Égalades. Donc ce dimanche-là, on peut découvrir le fameux ruisseau, la cascade des Égalades, et puis un grand marché de producteurs avec des huîtres de Bouzigues, des fromages et des Cévennes, des produits transportés à la voile par nos amis de Bourlingue et Pacotille, le rhum marseillais du fameux Docteur Ray, là, hein, par ailleurs grand spécialiste de musique sur Radio Grenouille. Et puis il y a le stand de la route du Zaatar, hein, c'est donc le projet que je développe depuis 4 ans en transportant donc des produits méditerranéens et en particulier palestiniens sur des voiliers depuis les Bouches-du-Rhône en passant par le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse, la Sardaigne, etc. Ce qui permet voilà, d'échanger entre méditerranéens des excellents produits. Et donc rendez-vous le 2 mars à la Cité des Arts de la Rue de 9h du matin à 15h. Voilà. Ensuite, on va arriver avant ça, le vendredi 28 février, oui, parce qu'il y a beaucoup d'événements, hein, parce qu'il y a besoin absolument de toutes sortes d'événements pour toujours, toujours soutenir la résistance palestinienne. Donc le vendredi 28 février à 19h, c'est au lieu qui s'appelle O35, parce que c'est le 35 boulevard Longchamp. Cette fois, c'est une soirée qui va évoquer les enjeux politiques, culturels et citoyens de la Syrie aujourd'hui. Parce qu'évidemment, on parle énormément de Palestine, mais c'est le Moyen-Orient en général qui est extrêmement mal en point et qui a besoin d'extrêmement de soutien. Donc vendredi 28 février à 19h au 35 boulevard Longchamp, enjeux politiques, culturels et citoyens de la Syrie aujourd'hui. Et évidemment, dimanche, il va y avoir aussi, comme tous les dimanches depuis le 7 octobre, rendez-vous à la Porte d'Aix à 14h, hein, pour la énième manifestation pour la Palestine. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas à Marseille, bien évidemment, il y a des manifestations un peu partout en France, mais localement, le dimanche après-midi, c'est à Marseille, mais le dimanche matin, c'est à la Ciotat que ça se passe, là sur les marches de l'église du Port-Vieux. À Aix, c'est le samedi, etc. Voilà. Alors, ça fait depuis le 7 octobre, mais en vérité depuis des décennies, évidemment que partout dans le monde, des gens qui sont informés dans les populations sur ce qui se passe en Palestine, organisent un nombre incalculable d'événements, créent des films, créent des podcasts de radio, éditent des livres, font des manifestations, etc. Et on peut parfois évidemment avoir beaucoup de découragement par rapport au fait que on n'est pas du tout au point de se dire que les choses s'améliorent. Et donc souvent on se demande comment on peut vraiment faire pour aider. L'un des moyens pour aider les gens qui sont en Palestine, c'est d'écouter leur musique, c'est de lire leurs livres, de partager leurs poèmes, et puis de goûter bien évidemment tous ces produits alimentaires qu'ils font. Ils sont extraordinaires, que ce soit le za'atar, l'huile d'olive, la bière taïbé, les dattes medjoul, etc. À propos de dattes medjoul d'ailleurs, c'est important quand on consomme un produit quel qu'il soit de savoir d'où il vient, et on écoutera tout à l'heure une jeune fille, Rislaine, à propos justement des possibilités d'action qui consistent à boycotter certains produits, en particulier donc produits par Israël, et c'est une façon de ne pas aider l'état de ce pays à continuer d'avoir des ressources pour continuer sa guerre génocidaire, etc. Voilà. Et donc je voulais vous parler en particulier ce mercredi de février du fait que pour acheter des produits palestiniens à Marseille, eh bien il y a une boutique qui a ouvert il y a maintenant plus de 3 ans qui s'appelle Ya Baladi, la boutique des produits paysans, et qui est donc place Labadier à Marseille. D'autres Marseillais l'appellent place de la Rotonde. C'est à peu près entre les Réformés et le Palais Longchamp. Et donc cette boutique a des produits parce que depuis plus de 25 ans, une petite entreprise s'est créée qui est basée en Aveyron, qui s'appelle Fipsouk.fr, donc France Import Palestine. Et cette entreprise, créée par une grande famille extrêmement chaleureuse et militante et active, a créé aussi une association, Le Philistin, grâce à laquelle tous les 2 ans s'organise un festival Palestine en campagne, et qui permet pour des gens comme moi qui ne sont jamais allés en Palestine, de rencontrer des Palestiniens, des Palestiniennes, etc. Alors donc ce festival qui a été créé en 2013 avait lieu tous les 2 ans autour du 15 août, là-bas en Aveyron, justement près de Rodez, là où est basé le siège de cette petite entreprise. Et à l'été 2023, parmi tous les gens qui sont venus à ce festival, de toutes les régions de France, y compris de Belgique, du Luxembourg, il y en avait des États-Unis, de Palestine surtout, sont venus des gens de Bobigny. Et ils ont été tellement épatés de voir ce qui se passait pendant ce festival qu'ils ont demandé à Jean-Marie Dansette que l'édition 2025 se fasse en campagne, mais cette fois digérée dans la campagne de Bobigny. Et justement, donc Jean-Marie Dansette vient de faire un voyage à Jérusalem et en Cisjordanie avec Sabri Giroud. Sabri Giroud qui est un Palestinien, il est devenu Palestinien suite au fait qu'étant jeune étudiant en archéologie, il y a longtemps, il faisait des fouilles à Gaza, il a rencontré une Palestinienne, ils se sont mariés. Sabri vit à Jérusalem-Est. Il a créé il y a longtemps une petite agence de voyage qui s'appelle Diwan Voyage. Et donc Sabri Giroud, Jean-Marie Dansette et Belkacem et les gens de Bobigny ont fait un voyage qui n'a pas été simple, évidemment, à Jérusalem et en Cisjordanie, pour retrouver des producteurs, des artistes connus, qui font un travail considérable depuis des années, et voir lesquels d'entre eux pourraient donc venir au prochain festival Palestine en campagne. Et en l'occurrence, à Ramallah, ils ont rencontré un magnifique torréfacteur de café, la marque Iziam, qui existe depuis 1921, qui fait donc des cafés excellents, mais pas que, des chocolats, des épices, etc. Et il est probable que ces gens-là soient donc au Festival Palestine en campagne 2025. Je dis probable parce qu'évidemment, ce qui est très très compliqué, c'est de pouvoir avoir la certitude que des gens, quels qu'ils soient, vont pouvoir avoir un visa pour sortir de Palestine. Et souvent, ça se passe au dernier moment. C'est un festival très compliqué à organiser. Donc, ils ont fait cette rencontre à Ramallah travaille pour du torréfacteur de café. Ils ont passé énormément de temps, évidemment, à Jérusalem. Et là, ils ont rencontré un groupe de musiciens. Ahmed, directeur artistique et conteur. Et Jaber, qui interprète le répertoire du fameux Cheikh Iman. Voilà, le Cheikh Iman, qui était né dans une famille pauvre, qui est devenu aveugle à l'âge d'un an à cause d'une ophtalmie mal soignée. Et après la guerre des six jours, en 1967, il a commencé à écrire des chansons révolutionnaires. Voilà, et ces chansons sont reprises, et donc on espère qu'on aura Ahmed et Jaber au Festival Palestine en campagne. Ensuite, ils sont allés à Bir Zeit. Alors là, Bir Zeit, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ils ont rencontré Adam Cassis. Alors c'est pas Cassis, hein, le village qu'on aime tant près de Marseille, mais ça s'écrit avec un K, qui est un viticulteur passionné et qui produit évidemment du vin, mais aussi le fameux arak. Et donc on espère qu'on pourra avoir de la part de ce Adam de l'excellent vin de Bir Zeit et de l'arak au Festival Palestine en campagne. Alors l'un des moyens effectivement de soutenir ces gens-là et de mieux les connaître, mieux les comprendre, concernant le vin, un livre extraordinaire est sorti récemment qui s'appelle « Le vin et la Palestine, une histoire millénaire » écrit par Nasser Soumi aux éditions Almanach. Et bien sûr, c'est à lire avec modération, mais non, sans modération, à lire avec raison. Et c'est là qu'on apprend que, contrairement à ce qu'on nous dit, qu'apparemment ce sont des Grecs, les Phocéens, qui ont été les premiers à mener le vin dans notre cité devenue Massalia, mais non, bien avant, ce sont des Phéniciens, de Mésopotamie, donc des Palestiniens, parce qu'ils étaient les meilleurs à l'époque pour faire des canettes, bon, enfin en fait, de faire des enfants, voilà, qui ont amené le vin chez nous. Voilà, donc le vin et la Palestine, une histoire millénaire, est un livre magnifique. Voilà, et donc, y a d'autres rencontres évidemment qu'ils ont faites, et donc on espère qu'on sera très nombreux en août prochain, entre le 16 et le 18, à Bobigny pour le Festival Palestine en campagne, où il y aura aussi Saad, qui lui produit énormément de cuir, SG Leathers, des chaussures, des portefeuilles, des ceintures, et bien sûr, des représentants de la famille Tamimi, qui depuis des générations font des céramiques merveilleuses dont les motifs, dans l'Antiquité, ont été introduits par des Arméniens. Voilà. Et en tout cas, tous ceux qui le souhaitent, ils peuvent aller sur le site fipsouk.fr pour commander ces produits. Et ils peuvent, s'ils sont à Marseille, aller à la boutique Yabladi, qui est ouverte tous les mercredis après-midi de 13h à 17h et le vendredi après-midi de 17h à 19h. Et dans cette boutique, dont le vendredi après-midi, c'est une jeune femme qui s'appelle Rislen, qui est d'origine algérienne et qui, elle aussi, étant algérienne, dès qu'elle est née, elle a été parfaitement au courant, imprégnée de tout ce que les Palestiniens subissent. Et la façon qu'Origène a trouvé de donner un sens à la douleur, à l'émotion qu'elle partage avec ces gens-là, et bien justement, c'est de vendre les produits. Alors on va écouter Rislen à propos des fameuses dates Medjoul.
Boycottons les dates de l'apartheid. Pourquoi devons-nous les boycotter? La culture des dattes est l'activité agricole principale de près de 50% des colonies illégales de la vallée du Jourdain en Palestine occupée et contribue fortement à leur viabilité économique. La vallée du Jourdain est la région la plus fertile de Palestine. Mais à cause des restrictions d'accès, seuls 4% de la terre est cultivée par des Palestiniens et 86% des terres agricoles sont confisquées par des colons israéliens. Les colons détournent aussi 80% de l'eau au profit de leurs colonies et des palmeraies en particulier. Les colonies de la vallée du Jourdain bénéficient de 300 litres d'eau par personne et par jour, contre 20 litres pour la plupart des communautés palestiniennes. L'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation minimum de 100 litres par personne et par jour. La quasi-totalité des puits est à l'usage exclusif des colons. Les Palestiniens de la vallée du Jourdain sont aussi soumis à des destructions d'habitations et d'infrastructures, amenant ainsi des déplacements forcés de la population. Les écoles ne sont pas épargnées. Les exercices de l'armée israélienne ont emmené le déplacement de très nombreuses personnes. Dans l'impossibilité de cultiver leurs propres terres, des centaines de travailleurs palestiniens, y compris des enfants, travaillent dans les colonies agricoles israéliennes. Au plus haut point de la révolte, ils peuvent travailler 12 heures par jour dans des conditions très difficiles. Pour toutes ces raisons, et devant ce génocide en cours cette année, plus que jamais solidaire du peuple palestinien, spolié de son droit à vivre librement sur sa terre, nous appelons à boycotter les dates de l'apartheid israélien. L'Europe devrait interdire le commerce avec ces colonies israéliennes qui sont illégales. Pendant le Ramadan en particulier, un grand nombre de commerçants proposent à leurs clients des dattes medjoul en provenance des colonies installées dans la vallée du Jourdain. Si l'origine de ces produits n'est pas toujours mentionnée afin de tromper le consommateur, les marques néanmoins sont connues. Méadrin, Adik Leim, Jordan Valley, Jordan Plains, Jordan River, Betsheva, Salomon, etc. Et bien sûr, l'entreprise française Bruce et Fils, qui est la première importatrice des dattes israéliennes en France. Refusez-les. N'hésitez pas à exiger poliment mais fermement du commerçant qu'il cesse de proposer ses produits de l'apartheid à la vente en prenant les autres clients à témoin. Quelle que soit leur réponse, n'oubliez pas qu'en matière de commerce, le client décide et que le plus nombreux nous serons à nous exprimer ouvertement sur cette situation intolérable due à l'occupation israélienne, plus ces commerçants se poseront des questions sur la légitimité et la pertinence de la commercialisation de ces produits. Pour être informé du produit, s'il est à boycotter ou non, nous avons l'application Boycott. On peut la télécharger et scanner chaque produit avec le code barre pour connaître si le produit est à boycotter ou non. Si vous voulez vous procurer des dattes 100% palestiniennes, il y a plusieurs plateformes pour en commander. Nous avons bien sûr France Import Palestine, le site fipsouk.fr, la boutique Yabaladi, qui se trouve au 12 place Alexandre Labadi, 13001 Marseille, ouvert tous les mercredis de 13h à 17h et tous les vendredis de 15h à 19h. Il y a la coopérative Andine.
Voilà, on remercie beaucoup Rizlène et je suis très content qu'on ait une jeune voix dans cette émission. Donc Rizlène fait partie de beaucoup de jeunes qui se sont énormément investis depuis le 7 octobre dans Urgence Palestine. Et donc je reviens sur ce mot de boycott. Donc c'est une façon évidente, comme elle l'a dit, n'importe quel consommateur peut décider de boycotter tel ou tel produit parce qu'il considère qu'il n'est pas bon pour sa santé ou autre. Mais concernant le boycott des produits donc, israéliens, l'État français à un moment donné a voulu interdire cette campagne. Mais non, bien sûr que la Commission européenne a déclaré tout à fait légal et donc on peut trouver tous les renseignements de cette campagne internationale BDS sur les sites internet. Voilà, donc merci Rislaine. Et concernant les grandes voix féminines, on a bien sûr Fayrouz, donc j'ai cité au début le fait que ce samedi 1 mars à la Cité de la Musique, on va avoir le quintet Atmaten, qui a été composé donc par Amin Soufari et qui va permettre à Schreibi à la voix, à France Duclérol à la contrebasse, Nadia Tiguidette, notre chère percussionniste qui vit à Marseille, et Vincent Clader au saxophone, donc de donner un vibrant hommage à Fayrouz, et on peut déjà les écouter un petit peu ce soir, le quintet Atmaten. Thank you.
حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي حبيبي ندهلي قال لي الشت راح رجعت لي أمامي زهر التفاح حبيبي ندهلي قال لي الشت راح رجعت لي أمامي زهر التفاح وأنا على بابي ندي والصباح وبعيونك ربيعي زهر وحلي سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذها الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما بنكون سوا وسألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذها الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما بنكون سوا أيوة
Voilà, donc c'était donc un petit extrait des musiques magnifiques que produit le quintet Atmaten avec la direction et les arrangements de Amin Soufari. Et donc il y avait avec les autres instruments la voix de Hint Shraibi en hommage à la grande, grande voix de Fayrouz. On a entendu hein, à début « Habibi, Habibi, mon amour, mon amour ». Voilà, et donc concernant les belles voix aussi qu'on a pu découvrir récemment à Radio Galère, c'est la voix de Marie. Alors Marie, elle s'est installée récemment à Marseille. Marie a vécu à Ramallah un certain nombre de temps. Et puis au moment de ce fameux 7 octobre, Marie était en Tunisie. Donc c'était à ce moment-là impossible, bien évidemment, de revenir à Ramallah. Mais elle a pu y retourner au printemps dernier avec un jeune homme dont je croyais qu'il avait un prénom arabe. Je croyais que c'était Marwan, mais c'est Merwan, qui est donc en partie d'origine bretonne. Et donc Marie et Merwen ont produit un podcast que je trouve magnifique, ça s'appelle Yalla je t'emmène, en avant je t'emmène où ça ? En Palestine. Alors Marine est déjà venue le mois dernier pour vous proposer la bande-annonce de ce podcast, mais elle est revenue en studio et donc on écoute. Bonjour. Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Philippe, je suis très contente d'être ici avec vous et on a même Merwen aussi dans les studios avec nous. Il est là parce que dimanche, il y a un autre événement aussi sur lequel je voulais attirer votre attention qui sera organisé à Massalia Vox, au 15 boulevard de la Liberté. Ce sera dimanche et ce sera de 17h à 22h. Il y aura trois temps. C'est un événement pour la Palestine où on va lever des fonds pour la Palestine. Et il y aura trois temps. Et la raison pour laquelle je suis au courant et que Mewen est là, c'est parce que le premier temps, il sera réservé à Yalla, je t'emmène. On va écouter un petit peu du podcast et puis après... on discutera. Le but, c'est de discuter du podcast ensemble. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus. Et ensuite, comme le ramadan aura commencé d'ici là, on va rompre le jeûne ensemble avec un ftour. Et puis, il y aura des ateliers pendant ce temps-là aussi de calligraphie. Il y aura d'autres ateliers de déclamation de poèmes, etc. où on peut participer, évidemment. Et puis, le troisième temps, ce sera une scène ouverte. Avec la possibilité, si vous voulez, de vous inscrire pour déclamer des poèmes, réciter votre texte que vous aurez écrit, peu importe, vous êtes les bienvenus pour participer à cette scène ouverte. Ça, c'était la partie promotion de Massalia Vox, qui est une super organisation qui est aussi en contact avec Radio Galère, si j'ai bien compris. Et l'autre raison pour laquelle je suis là, c'est pour parler un petit peu d'actualité sur la Cisjordanie, puisque j'y ai vécu les trois dernières années. Moi, c'était important pour moi qu'on parle un petit peu de ce qui se passe là-bas, en Cisjordanie occupée. Et donc, une des raisons justement pour lesquelles, avec Mewen Petard, on a créé ce podcast Yalla, je t'emmène, c'est parce que le traitement médiatique, ou plutôt c'est à cause du traitement médiatique, ou plutôt de la pauvreté, ou l'absence même des fois de traitement médiatique de ce qui se passe en Cisjordanie occupée. Et c'est encore tout aussi flagrant aujourd'hui, donc je suis très contente de pouvoir en venir en parler plus régulièrement ici dans l'émission Une heure en Palestine. Alors, qu'est-ce qui se passe en Palestine ces dernières semaines? Je pense que les deux choses que personne n'a manqué, même les moins avertis, c'est d'abord la nouvelle du cessez-le-feu.
Dès l'annonce d'un possible accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à compter de dimanche, ces Palestiniens de la bande de Gaza ont laissé éclater leur joie hier soir.
Le génocide contre notre peuple va enfin se terminer.
Nous sommes très heureux de cet accord. Il nous donne de l'espoir pour l'avenir de Gaza.
Donc le cessez-le-feu qui a débuté le 19 janvier dernier, ça c'est la première nouvelle qu'on n'a pas pu louper. Et puis il y a la deuxième nouvelle aussi.
Faire de Gaza une propriété américaine, voilà l'idée inédite présentée par Donald Trump lui-même.
Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous travaillerons également avec elle. Nous en serons propriétaires et nous serons responsables du démantèlement de toutes les dangereuses bombes non explosées et autres armes présentes sur le site.
Le président américain y voit d'ailleurs une future Côte d'Azur du Moyen-Orient avec ses bâtiments flambant neufs dont il aurait permis la reconstruction. Car Donald Trump l'affirme, la zone est aujourd'hui inhabitable et dangereuse. L'occasion pour lui de réitérer sa suggestion de relocalisation des Gazaouis accueillis par leurs voisins en Jordanie ou en Égypte. Une solution idéale selon lui, mais vivement dénoncée par les Palestiniens et nombre de pays du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a d'ailleurs immédiatement rejeté cette idée. Aux côtés du dirigeant républicain, c'est un Benjamin Netanyahou dithyrambique qui a pris la parole à son tour, saluant un plan qui pourrait, dit-il, changer l'histoire. Le Premier ministre israélien a aussi tenu à remercier le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche, un ami et un soutien sans faille pour atteindre ses objectifs.
Donc en résumé, la volonté assumée de Trump, le promoteur immobilier et accessoirement président des États-Unis, de s'approprier la bande de Gaza et de la transformer en station balnéaire, a encouragé ce qu'ils appellent la migration volontaire, j'ai mis des guillemets avec mes doigts, des Gazaouis, qui n'est ni plus ni moins qu'un nettoyage ethnique sous un autre nom. Mais ces deux nouvelles, donc le cessez-le-feu à Gaza et ces déclarations aberrantes de Donald Trump, à mon sens, comme Trump et ses acolytes comme Benjamin Netanyahou, en ont l'art et la manière, c'est-à-dire mieux nous détourner de ce qui se passe ailleurs. Parce que dans le même temps, l'armée israélienne a attaqué le nord de la Cisjordanie occupée.
L'armée israélienne se concentre donc désormais... Cisjordanie occupée, c'est depuis trois jours. Elle intervient contre des groupes armés palestiniens. Une opération antiterroriste à coups de bulldozers, d'avions et de véhicules militaires blindés. Les autorités israéliennes demandent aux habitants d'évacuer le camp Clair du Hamel. Des centaines de Palestiniens quittent la zone depuis ce matin.
Bon, cet extrait date du début de l'attaque, donc ça ne fait pas trois jours, mais bien plus d'un mois. Et si j'étais mauvaise langue, je dirais que les médias français ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire relayer les mots de la propagande israélienne en parlant d'opérations de, je cite, « contre-terrorisme » ou de « prévention contre le terrorisme », contre des groupes armés palestiniens. Personnellement, je me méfie toujours de ces appellations, peu importe d'où elles viennent, mais surtout quand ce sont les autorités israéliennes, parce que ça sert de justification à beaucoup, beaucoup d'opérations qui servent d'autres desseins, en l'occurrence ceux de la colonisation et du nettoyage ethnique. Toujours est-il que ça fait donc un peu plus d'un mois que les habitants du nord de la Cisjordanie occupée subissent cette opération. Plus précisément à Jenin, Tul Karem et Toubas, et encore plus précisément dans les camps de réfugiés alentour. On parle de dizaines de morts, d'au moins 40 000 déplacés, de bombardements, d'obstructions d'accès aux hôpitaux, et hier, pour la première fois depuis la seconde intifada, donc en 2002, des chars israéliens sont entrés à Jenin. Et avec tout ça, vous vous dites peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Parce que oui, ça nous rappelle ce qui se passait à Gaza avant le cessez-le-feu, avant la conclusion du cessez-le-feu, au point que certains médias comme Haaretz, Al Jazeera ou le magazine Plus 972 parlent de gazification de la Cisjordanie. C'est un terme qui était déjà apparu quand l'armée israélienne a commencé son invasion terrestre au sud du Liban. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi là-bas? Et en particulier, pourquoi dans les camps de réfugiés? Et ça, c'est une question sur laquelle on est revenu dans le podcast Yalla, je t'emmène. En deux mots, le podcast que Mewen Petar et moi avons créé, c'est le podcast que Mewen Petar et moi avons créé pour emmener n'importe qui en Palestine et surtout pour donner la parole aux Palestiniens et aux Palestiniennes, dont Abou Amar, qui a grandi dans l'un de ses camps de réfugiés, celui de Jalazoun, près de Ramallah. Abou Amar est un réfugié palestinien en Palestine. Et si ça vous paraît contre-intuitif, je vous invite à aller écouter l'épisode 6 du podcast Les Décans. Pourquoi je vous en parle? Pas uniquement pour faire de l'autopromo, mais aussi parce que précisément, avec Abou Ammar, on avait abordé cette question. Pourquoi les Israéliens s'en prennent-ils toujours plus au camp des réfugiés, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, occupés? Donc voici un extrait de l'épisode 6 sur le sujet. Sur le site de l'UNRWA, vous vous souvenez, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, on peut y lire qu'en 2022, donc bien avant les événements du 7 octobre, le camp de Jalazoun a enregistré 90 opérations militaires israéliennes, soit environ une opération tous les 4 jours, et 124 arrestations, dont 31 enfants mineurs. Rien que ça. Justement, ce que tient à m'expliquer Abou Ammar, c'est que les camps de réfugiés sont particulièrement ciblés par l'armée israélienne. Mais pourquoi ?
Notre vie, c'est la guerre. Tous les jours, on survit. Ce n'est pas seulement ce qui se passe à Gaza. Qu'on soit bien d'accord, ce qui se passe à Gaza en ce moment, c'est un génocide. Des centaines de personnes sont massacrées chaque jour. Mais si tu regardes l'histoire et ce qui se passe ici, en Cisjordanie, tu verras qu'on vit ça tous les jours dans les camps de réfugiés. Regarde, la semaine dernière, ils ont envahi le camp de Jalazoun. Ils ont tué 2 gars, et puis ils sont repartis comme si de rien n'était. Des incidents comme ça, il y en a chaque semaine, chaque mois, chaque jour parfois. Ils envahissent les maisons, ils assassinent, et puis ils repartent.
Or, quand on perd espoir et qu'on n'a plus rien à perdre, une des façons de s'en sortir, c'est de s'engager pour lutter contre la source de nos souffrances. Alors, à force d'être empêchés de revenir chez eux, à force de leur mener la vie dure, les camps de réfugiés finissent par devenir et être considérés comme des bastions de la résistance. Abou Ammar résume les choses comme ceci.
L'un des seuls endroits où il y a des activités de résistance, c'est dans les camps. Pour contrôler les camps, les soldats les encerclent. Ils s'assurent qu'aucune activité ne s'y déroule. Ils sont inquiets parce qu'ils savent que tout mouvement, toute activité ou toute résistance viendra des camps. Parce que les réfugiés souffrent. Ils veulent retourner à Ramallah, retourner d'où ils viennent. C'est pour ça qu'ils continuent d'essayer et la meilleure chose à faire pour les mater, c'est de les encercler, les rendre pauvres, de les affaiblir pour les dissuader de se battre.
Donc si on résume, ces camps de réfugiés qui devaient être des solutions temporaires se sont pérennisés, mais les conditions de vie y sont restées très mauvaises. Donc à l'intérieur, ça bouillonne, jusqu'à devenir ce que les autorités israéliennes considèrent être des bastions pour la résistance palestinienne qu'il faut mater. Voilà pourquoi ce sont les camps de réfugiés que l'armée israélienne attaque d'abord. Il y a bien sûr d'autres raisons, mais on s'y penchera une prochaine fois. En attendant, si vous vous demandez comment vous informer en français sur la situation en Palestine, je peux vous recommander Let's Talk About Palestine, donc parlons de la Palestine, qui fait un résumé quotidien des actualités en Palestine. Et ils le font en français, mais aussi dans d'autres langues, dont l'anglais et l'arabe, par exemple. Ils sont sur Instagram et il y a aussi des communautés WhatsApp. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Philippe.
Ben, merci beaucoup, Marie. Donc, ce podcast, Yalla, je t'emmène, peut-être écouté à tout moment. Il est sur toutes les plateformes. Et moi, qui n'y suis jamais allé, je trouve qu'on apprend beaucoup et qu'on apprendra toujours de toute façon beaucoup de la jeunesse. Donc, merci, Marie.
Merci à toi, Philippe.
Alors Marie nous a si bien expliqué à quel point les camps de réfugiés, quand on appelle ça camp, ben forcément ils sont encerclés, c'est des prisons à ciel ouvert et on affame les gens là parce que pour les empêcher de résister. Évidemment le plus grand camp d'entre eux, hein, c'est la bande de Gaza. Malheureusement on sait très bien que tous les bâtiments ont été détruits, depuis les universités jusqu'aux hôpitaux, mais la terre elle existe encore. Et puis une autre façon de résister fondamentale concernant la terre justement, ce sont tous ces villages de bédouins, hein, disséminés. De plus en plus disséminé, d'ailleurs éparpillé dans ce qui reste de la Cisjordanie, pas encore tout à fait occupé. Et donc c'est très très important pour ces gens-là de cultiver la terre, d'abord pour se nourrir tant que possible, et puis évidemment pour nourrir tous ceux qui n'ont pas la capacité de le faire. Et donc Marie a cité une association très importante, l'UNRWA, et puis tous les produits dont on parle, ils peuvent être finalement amenés au terme de leur production et conditionnés sur place, etc., par une autre association. Station très importante, c'est l'union des coopératives agricoles. Et donc l'une des façons fondamentales d'aider ces gens à résister, tout simplement, c'est de consommer leurs produits. Voilà. Et puis, il y en a qui savent bien cultiver la terre et faire des produits fantastiques en Méditerranée. Ce sont nos amis italiens. Alors, les jeunes de Urgence Palestine nous ont donné une chanson magnifique, une espèce de tarentelle italienne, mais pour la Palestine. Donc, on écoute nos amis italiens.
Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano.
Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna ha in pugno il suo fucile.
No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di armata.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani.
Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore.
Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone.
Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda.
Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione fino alla vittoria.
Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah.
Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Voilà, donc on entendait cette très belle chanson italienne qui s'appelle Rossa Palestine, hein, tout simplement, Rouge Palestine, qu'on peut évidemment toujours écouter sur des réseaux. Et la vidéo de cette chanson sur YouTube est vraiment très intéressante. Donc on remercie encore une fois les jeunes de Urgence Palestine de nous envoyer des musiques voilà, qui nous changent un peu des nôtres. Bon, ils en ont envoyé une autre, mais que j'avoue que là j'ai eu du mal à entendre, bien que ça soit une excellente musique. Et là en fait il s'agit de quelque chose qui semble nouveau, hein, pour moi qui soit un peu âgé là, entre guillemets. Donc c'est un groupe qui s'appelle 47 Soul, hein, c'est-à-dire 47 Soul. Et en fait, ce sont des pionniers d'un style unique qu'ils appellent le Shamstep. Et le Shamstep, en fait, ça consiste à faire du hip-hop électronique, mais fusionné avec des mélodies et des styles influencés par le Moyen-Orient, notamment le Sharabi, c'est la musique pop du Levant, et la musique de danse traditionnelle du Dap. Et justement, on parlait au début de cette émission du voyage que vient de faire Jean-Marie Dansette avec Sabri Giroux et des gens de Bobigny pour le futur festival Palestine en campagne qui aura lieu du 16 au 18 août à Bobigny. Et il se pourrait que ces fameux musiciens de 47 Soul y participent. En tout cas, concernant l'Italie, évidemment, c'est un pays très très important pour produire, on l'a dit, des excellents produits de leur terre, mais également de leur mer. De leur mère méditerranée. Hein. Et donc, grâce à Marie, et puis grâce au fait qu'on est dans Radio Galère, on a ce média extraordinaire, hein, qui reste la radio, où on peut entendre les voix des gens, leurs témoignages, qu'ils soient sur place ou à distance, sans être, je dirais, perturbés par des images, que ce soit des photos ou des vidéos, qui sont des supports très importants, bien sûr, mais dont on ne sait pas trop la vérité, dont on ne sait pas trop si elles sont trafiquées et autres. Et je voudrais en profiter pour parler d'un autre notre média très très important bien sûr, c'est le cinéma. On a la chance d'avoir à Marseille depuis 3 ans une superbe équipe, là aussi majoritairement féminine, du Festival Ciné Palestine qui existe depuis 12 ans à Paris, mais enfin on l'a à Marseille. Et j'ai la chance, lorsqu'un film est projeté dans un cinéma qui l'accepte, ben d'installer mon petit stand, donc Route du Zatar, de produits palestiniens. Et le dernier film que j'ai pu voir, qui est vraiment extraordinairement parlant, il s'appelle No Other Land, c'est-à-dire Pas d'autre pays. Donc c'est un film documentaire qui a été produit par des Israéliens et des Palestiniens. Donc il avait été projeté en avant-première au cinéma Les Variétés de la Canebière. Et puis tout à fait récemment, c'était le samedi 15 février dernier, et ça aussi on ne peut pas mesurer à quel point, pour soutenir la résistance, ben, pour un paysan de savoir que son huile d'olive ou ses dattes medjool sont consommées par exemple à Paris ou à Marseille, c'est extraordinaire. Mais pour un journaliste, qu'il soit amateur ou professionnel, un vidéaste qui produit des images, mais de savoir qu'elles sont projetées dans des cinémas, et en particulier dans un des plus anciens cinémas du monde, le très mythique Eden Théâtre à La Ciotat. Il se trouve qu'à l'automne dernier, il y avait comme d'habitude un festival du film israélien, et donc des gens qui se sont constitués en collectif à La Ciotat, le collectif donc Palestine La Ciotat, est allé voir la direction de l'Eden Théâtre et leur a demandé qu'il y ait une espèce de parité, un équilibre, et que donc le film qui parle vraiment des Palestiniens soit projeté. Et donc on a eu le Northerland à l'Eden Théâtre, que je conseille à tout le monde. Bon, pour l'instant il n'est pas visible sur les réseaux, hein, puisqu'il passe dans des salles de cinéma. Et donc lorsqu'on a eu ce film à l'Eden Théâtre, il y avait dans le stand de la Route du Zaatar, mais également le stand de Abed Enen, qui était avec nous aux émissions précédentes. Abed est un journaliste gazaoui. Il était journaliste et extrêmement évidemment militant, et donc sa maman en 2014 l'a vraiment quasiment mis dehors, hein. Elle lui a dit qu'il fallait absolument qu'il parte parce qu'il était traqué par des autorités d'Israël, par le Mossad, etc. Et après un long parcours, Abed a pu obtenir le statut de réfugié politique en France. Il vit à Marseille depuis plusieurs années avec sa femme et ses 2 enfants, et il fait des produits, il sublime des produits, que ce soit des mugs, des porte-clés, des tags, des tote bags, etc., et qu'il vend partout où c'est possible pour des survivants de sa famille de Rafah qui a été obligé de partir à Khan Younes. Et donc on peut trouver ses produits en particulier sur Instagram à la galerie de la Palestine 13. Voilà, Abed sera aussi avec nous ce dimanche, on en a parlé au dimanche aux Égalades. Et ceux qui n'ont pas encore vu No Other Land, il sera à nouveau projeté cette fois le samedi 15 mars au cinéma Le Gyptis de la Belle de Mai à Marseille. Voilà. Et puis, bien évidemment, quand on parle du Moyen-Orient, quand on parle de la Palestine, on ne peut pas ne pas parler de leur poésie. Bien sûr, on doit citer dans ce cadre-là Mahmoud Darwish. Mais là, je voudrais qu'on entende mon grand ami Chris. C'est un peu grâce à lui que je suis impliqué avec cette cause. Cette cause de la Palestine, on croit qu'on est peut-être obsédé par ces gens-là. Bien sûr qu'on est préoccupé par ces gens-là. Mais comme disait Nelson Mandela, qui en connaît un rayon, question privation de liberté, tant que les Palestiniens ne seront pas libres, nous non plus, les êtres humains, ne serons pas libres. Donc on écoute un nouveau poème que Chris vient de nous envoyer. Merci.
Un poème de Taoufik Zayad qu'il a écrit en 1965. Alida à Ramla en Galilée, nous resterons comme un mur sur vos poitrines et dans vos gorges comme un éclat de verre, une épine de cactus et dans vos yeux une tempête de sable. Nous resterons un mur sur vos poitrines, à laver la vaisselle dans vos restaurants, à servir des boissons dans vos cafés, à balayer le sol de vos cuisines, pour ramener à nos enfants quelques bouchées arrachées au bleu de vos crocs. Ici nous resterons, donnant à nos chants de la voix, descendant les rues de colère, remplissant les prisons de dignité. Alida, à Ramla, en Galilée, nous resterons pour garder l'ombre du figuier et de l'olivier, pour que fermente la rébellion chez nos enfants comme levure dans la pâte à pain.
Voilà, merci beaucoup Chris pour ce nouveau poème avec cet accent marseillais. Oui, nous resterons ou nous reviendrons quand c'est possible. Et à ce propos, je dois citer bien évidemment une autre façon de faire connaître certaines vérités, la littérature bien sûr, mais aussi le dessin. Et donc par rapport au poème « Nous resterons » de Chris, je voudrais citer le livre « Je ne partirai pas » de Mohamed Sabaneh. Mohamed Sabaneh est un jeune caricaturiste, enfin jeune, il est plus jeune que moi, il doit avoir une trentaine d'années, mais quand il était encore plus jeune, un ami caricaturiste de Mohamed Sabaneh là-bas s'est fait assassiner, et Mohamed Sabaneh a fait des séjours lui aussi comme tant de Palestiniens dans des prisons d'Israël. À ce propos, on parle en ce moment, entre guillemets, de libération d'otages et de prisonniers, et j'entends des gens comme, enfin des grands intellectuels, pour ne pas citer Michel Onfray, par exemple, qui affirme que les fameux prisonniers palestiniens, ils ont eu des jugements, etc. Non, bien sûr que non. Il y a énormément de prisonniers en Palestine qui sont emprisonnés sans aucun jugement, sans aucune justification, pour des durées parfois très longues. Et tant mieux si la plupart d'entre eux, si beaucoup d'entre eux peuvent être libérés. Et donc, je voulais revenir au fait que... Une façon de témoigner, c'est d'écrire et de dessiner. Et donc Mohamed Sabaneh publie des livres qui sont des dessins, mais à l'encre de Chine, parce que l'encre de Chine, c'est indélébile pour donner une trace à la mémoire. Donc il a publié un premier livre qui s'appelle « Je ne partirai pas », publié aux éditions Alif Bata de l'italienne Simona. Et beaucoup plus récemment, lorsqu'il était donc à Ramallah, alors que le 7 octobre venait de déclencher cette guerre abominable, eh bien il voyait passer des petites vidéos, mais qui étaient limitées à 30 secondes, et il a commencé à les dessiner, et son éditrice lui a dit « Ben oui, oui, dessine et on va faire un recueil », mais quand il voulait retrouver les vidéos, hop, elles avaient disparu. Alors que ces livres à l'encre de Chine perdurent. Voilà. Et puis on a entendu tout à l'heure Marie nous expliquer des choses qu'on ne peut pas très bien comprendre quand on n'est pas sur place ou quand on n'a pas les bonnes sources d'informations dans les bons médias. Et je voudrais qu'on entende maintenant une jeune femme qui s'appelle Youssa, d'Urgence Palestine exactement. Donc ça fait très longtemps que j'entends parler de déshumanisation, hein, la façon que tout un tas de colons, tout un tas de chefs de guerre, etc., tout un tas d'exploiteurs de toutes sortes ont de déshumaniser les gens pour qu'ils ne deviennent que des pions, que des outils pour produire et souvent malheureusement des armes de guerre. Mais Yousra nous parle d'infra-humanisation. On écoute donc Yousra d'Urgence Palestine.
La colonisation passe par l'inégalité statuaire des valeurs des êtres humains, surhumanisation d'un côté, déshumanisation de l'autre. Ceci est une citation de Ronnie Bruman. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'infra-humanisation. C'est ce phénomène qui fait croire que certains vies comptent plus que d'autres, que certaines souffrances mobilisent tout de suite l'opinion publique alors que d'autres sont ignorées, minimisées, voire même justifiées. Et si j'en parle, c'est parce que la Palestine est l'exemple parfait de cette mécanique. Les Palestiniens ne sont pas juste victimes d'une occupation militaire et d'un nettoyage ethnique. Ils sont aussi victimes d'un récit mondial qui déshumanise leur existence, justifie les violences à leur encontre et criminalise même le simple fait de les soutenir. L'infrahumanisation fonctionne comme un balancier entre deux opposés. D'un côté, la surhumanisation, c'est quand certaines populations sont présentées comme des victimes absolues. Chaque attaque contre eux est une tragédie. Chaque peur qu'elles ressentent est jugée légitime. De l'autre, la déshumanisation, c'est quand des peuples sont montrés comme des menaces, des statistiques, des victimes collatérales. Leur douleur est minimisée et on les accuse même d'être en partie responsables de ce qui leur arrive. Et c'est exactement ce qui se passe avec la Palestine. Et les médias jouent un rôle dans ce mécanisme parce qu'elles ont un pouvoir énorme. Ils décident quelles tragédies méritent notre empathie et lesquelles doivent rester invisibles. Par exemple, quand un civil occidental est tué, on voit son visage, on entend son histoire, sa famille témoigne, son humanité ne fait aucun doute. Tandis que quand c'est un Palestinien, même un enfant, est tué par l'armée israélienne, il devient un dommage collatéral, voire même un futur terroriste. On ne parle pas de son histoire, on ne montre pas son visage, on le met à distance. Et regardez bien aussi les mots qu'on utilise. On parle de conflit comme si c'était une guerre entre deux armées égales, alors qu'en réalité, c'est un peuple colonisé face à une puissance occupante. On dit qu'Israël riposte alors qu'on bombarde une population enfermée sous blocus. On met en avant la peur des Israéliens, mais on minimise la terreur des Palestiniens qui vivent sous les bombes. Et tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est un conditionnement. Un conditionnement qui nous pousse à voir certaines vies comme plus importantes que d'autres. Et cette hiérarchie des vies, elle ne date pas d'hier. Pendant la colonisation européenne, on expliquait que les peuples colonisés étaient inférieurs et qu'ils avaient besoin d'être civilisés. Et ça, ça a servi à justifier l'esclavage, l'exploitation et les massacres. Aujourd'hui, malheureusement, la logique est la même. On présente les Palestiniens comme un problème, comme une menace, pour que leur oppression paraisse normale et presque inévitable. Mais si la Palestine est traitée comme un sujet intouchable, c'est parce qu'elle dérange de grands intérêts économiques et stratégiques. Israël est un allié clé des États-Unis et de l'Europe, un acteur central dans l'industrie militaire et technologique. Et les Palestiniens n'ont pas de puissance économique derrière eux, donc leur cause est reléguée au second plan. Et surtout que l'Occident ne veut pas perdre son allié stratégique, alors il ferme les yeux. Et nous, on est bombardés d'un récit qui nous pousse à ne pas trop poser de questions. Donc, cette infrahumanisation n'est pas sans conséquence. Et elle a des effets réels, destructeurs.
Voilà, merci beaucoup Loustra pour ce texte moi, que je trouve très intéressant, qui permet vraiment de comprendre certaines réalités. Non, ce n'est pas un conflit, non, ce n'est pas une guerre, c'est une occupation absolument illégitime qui dure depuis 70 ans, qui est génocidaire, c'est un apartheid, etc. Et donc on entendait plutôt Rislaine qui nous parlait d'un moyen d'action qui est le boycott des dates, mais on comprend bien que ce qu'il faudrait vraiment boycotter absolument, c'est l'armement. C'est absolument pas possible que l'Europe continue d'envoyer des armes pour cette guerre qui n'en est pas une, c'est une boucherie, un génocide. Et donc parmi les dates qu'on a citées, il faut en rajouter une ce mercredi prochain, là, le 5 mars, à nouveau devant les bureaux justement de la Commission européenne, il y aura un grand rassemblement pour exiger que tant que les choses ne sont pas justes, et là elles sont parfaitement injustes, eh bien notre pays, la France, notre communauté européenne soi-disant, eh bien arrête de livrer des armes pour que cesse enfin cette abomination qui dure depuis trop longtemps. Non, merci encore, Loustra. Alors, parmi les autres façons, je dirais, de contribuer à la résistance et surtout de contribuer à ce que les plus jeunes d'entre les victimes qui n'ont pas été assassinés, qui ont pu être maintenus en vie. Il y en a énormément qui ont été, je dirais, exfiltrés, exilés, je ne sais pas comment on dit, en tout cas qui ont pu être sortis de la bande de Gaza et qui se sont retrouvés accueillis dans des hôpitaux à Port Saïd. Mais il y en a certains d'entre eux qui ne peuvent pas bouger depuis des mois, ils sont enfermés dans l'hôpital. Et donc là, j'ai un ami, un autre marin, Olivier, qui développe une action qui s'appelle Éducateurs sans frontières. Alors le site internet, c'est esf.free.nf, et donc qui consiste à faire tout ce qui est possible de faire avec ces jeunes gens qui sont privés de tout, enfermés dans un hôpital à Port Saïd. Et donc une cagnotte pour le soutien à ce projet s'est créée sous Ulule, et ça s'appelle donc Soutien aux réfugiés palestiniens, palestiniennes au pluriel à Port Saïd. Voilà, en tout cas je suis content de participer à tout ce qui se fait pour le soutien de ces gens. Grâce à Radio Galère 88.4, on a été content d'accueillir Marie. N'oubliez pas donc d'aller voir, écouter ce très beau podcast « Yalla, je t'emmène ». Et on remercie encore beaucoup Saïd. Donc je rappelle que toutes ces dates, tous ces éléments, toutes ces informations sont parfaitement lisibles dans le site internet de l'association France-Palestine. C'est tout simplement www.france-palestine.org. Au niveau de notre département, donc on a Palestine 13, donc asso-palestine13.org, dont l'Assemblée Générale a lieu ce jeudi 27 février à partir des 18h à la Maison des Associations. Et puis pour tous ceux qui le peuvent, rendez-vous dimanche aux Égalades. À bientôt, à la prochaine émission, ça sera la dernière du mois de mars. Et merci Sidi, merci Radio Galère. Apache, salute a tutti.